Les Gones.
Une émission sur Lyon.
Présentée par Thomas Lacombe
et toute sa bande.
Bonjour à tous, bienvenue chez Les Gones pour cette deuxième émission. Les Gones, c'est votre émission sur Lyon. Tous les 15 jours, nous vous tiendrons au courant de l'actualité locale, en jouant avec. Nous vous donnerons la bougeotte avec la rubrique sortie et nous mettrons en lumière une association lyonnaise. Au passage, mea culpa pour Les Gones, dont les oreilles ont saigné quand j'ai parlé la semaine dernière des Gones. C'est parce que je suis un gars du Nord, du 7-7 représente, dédicace à Christine et Xavier. Mais pour ce deuxième numéro, on reste bien dans le 6-9. Après le Petit Paumé, nous recevons une autre association étudiante qui parle de Lyon et qui vous donne envie de lire, d'aller au cinéma, au théâtre ou même au cirque. Bref, de profiter de la richesse et de la diversité de la scène artistique lyonnaise, sans s'empêcher pour autant de parler de ce qu'il se passe ailleurs en France, l'Envolée culturelle, association de l'Université Lyon 2 et son président fondateur, Jérémy. Bonjour.
Bonjour.
Il ne me reste plus, chers auditeurs, qu'à vous parler des Gones. Dans l'argot lyonnais, les Gones, ce sont des sales gosses. À Transistor, les Gones, ce sont eux. Une Gone qui a fait une étude comparative sur les tartes à la praline, et d'ailleurs, ça lui colle encore aux dents, Marie.
Bonjour Thomas.
Un Gone qui, comme Tatiana n'est pas là aujourd'hui, aurait pu la remplacer. Mais la perruque blonde, ça lui rappelle trop son boulot du jeudi soir, Florent.
Salut Thomas.
Une Gone qui fête en automne ses 24 printemps. Joyeux anniversaire, Marie-Ève.
Merci, Thomas.
Et petite chanson de circonstance. Alors Marilyn Monroe, c'était un peu trop classe et trop classique. Alors du coup, quand je suis tombé sur cette chanson de Matt Houston en tapant Happy Birthday dans YouTube, hein, j'avoue, j'ai tellement trouvé énorme cette référence à la prison de Fleury et de Fresnes que je me suis dit que pour une thésarde, finalement, ça s'imposait. Non ?
Et moi, je me demande vraiment ce qui t'écoute quand t'es chez toi, quand tu t'infliges c'est... des choses.
Ça m'a coupé le sifflet, en tout cas, j'avoue, mais merci quand même.
Alors, pour nos auditeurs, il faut expliquer que nous enregistrons lundi et que c'est donc bien le 6 octobre, ton anniversaire, Marielle.
Tout le monde le saura maintenant, c'est bon.
Voilà, c'est ça. Une petite pensée pour De Gones, Sénémarnais, Tatiana, qui sera de nouveau des nôtres dans deux semaines, et puis Romain, à qui je prêterai ma voix tout à l'heure pour sa chronique sportive. Mais tout de suite, c'est le moment de s'amuser avec l'actualité. Actu donc, et je vous propose au menu chronique décalée et questions sur l'actualité locale. Et on commence tout de suite avec cette première question pour Mégone et Jérémy, hein, de l'Envolée culturelle qui peut intervenir quand il le souhaite. La question c'est, qui sera à l'honneur à Lyon à partir du 13 octobre ?
C'est pas le congrès du FN ? Ah non, c'est en novembre, ça pardon.
Alors rien à voir, c'est pas dans le domaine politique, non.
C'est de la culture un peu le FN, ouais. Faut pas déconner quand même.
Alors en revanche, ce qu'on cherche et qui n'est pas le FN, c'est bien dans le domaine de la culture, Florent, oui.
La culture ou la...
Non pas la culture, la culture, et un hommage va être rendu à quelqu'un à Lyon, hein, pendant toute une semaine.
Quelqu'un qui est déjà décédé ?
Non, il est bien vivant et il sera là pour cet hommage à partir du 13 octobre pendant toute une semaine.
Adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno.
Alors, si vous reconnaissez, bien sûr, d'où est extraite cette musique, peut-être...
Almodovar.
Eh oui, et pourquoi alors Almodovar ? Pourquoi ?
Il y a le Festival Lumière.
Voilà.
C'est le Festival Lumière.
Et c'était la BO de Bolbert. Après, Clint Eastwood, Milos Forman, Gérard Depardieu, Ken Loach et Quentin Tarantino, eh bien c'est le cinéaste espagnol Pedro Almodovar qui recevra le 6e prix Lumière d'où évidemment cet indice. Le prix Lumière, il a été créé afin de célébrer à Lyon un cinéaste, à l'endroit même où le cinéma avait été inventé par les frères Lumière, et donc il est attribué cette année à Pedro Almodovar pour son œuvre, et il recevra sa distinction lors du prochain Festival Lumière. C'est maintenant à vous de jouer, chers auditeurs, comme mes gones, et vous gagnerez peut-être, en partenariat avec le Ninkasi, votre place pour aller écouter Cannibal Corpse en concert au KO le jeudi 23 octobre. Voilà, c'est un peu ça.
Extrait.
Et pour cela, si vous avez toujours envie, parce qu'il donne bien envie, Florent, d'aller voir Cannibal Corpse, répondez à cette question. Qui déclarait au Progrès, le journal, vendredi 3 octobre, être le candidat naturel de la droite au municipal de 2020? Cet homme a de l'ambition, vous avez la réponse, inscrivez-la dans la partie commentaire de la page de l'émission. Tirage au sort parmi les bonnes réponses, exceptionnellement avancé au dimanche 19 octobre, pour laisser le temps de communiquer le nom du gagnant au Ninkasi KO. Détail du jeu dans le règlement disponible sur notre site. Florent, maintenant c'est à toi. Même sans Tatiana, tu changes de peau et avec un personnage, tu nous offres maintenant le point de vue décalé ou décapant d'un gone sur l'actualité nationale. Et aujourd'hui, l'actualité commentée par nos invités, Jean-Paul et Patricia, professeurs au lycée Albert Camus de la cité des Mille Muguets.
Ce sera avec plaisir, mais malheureusement, comme vous avez pu le voir, Patricia n'a pas pu venir pour des raisons professionnelles.
Une réunion de parents d'élèves, peut-être ?
Non, rien de tout ça, elle est en dépresse, en week-end prolongé. Vous savez comment sont les profs, je vous fais pas un topo, on n'est jamais les derniers pour se détendre un coup.
Mais vous parliez d'une dépression ? En octobre ?
Chut, malheureux !
Ça fait juste un mois, enfin.
Chut ! Nous sommes tous surveillés, surtout ici. Vous parlez d'une radio libre ? En plein dans l'ENS, c'est comme caché à le bac d'adieu au Pentagone. Allô, mon jeune ami, puisque je vous dis qu'elle est en week-end. Enfin, ce n'est pas bien grave, je la remplace au pied levé. Alors, c'est qu'elle avait préparé la partie factuelle.
Ah bah oui, ça complique.
Ah oui, bah moi je devais faire le côté drôle, je suis pas le dernier des rigolos, en salle des profs, on dit toujours « JP, toi qui es rigolo !» Bon, quoi qu'il en soit... Alors, c'est bien simple. Une semaine où on voit bien que tout n'est pas rose. Repsamen veut faire ficher les chômeurs une première, cette surveillance intolérable.
Un fichage qui nous en rappelle un autre, n'est-ce pas ?
Je ne vois pas du tout ce que vous voulez dire.
Vous voulez tous nous mettre dedans ou quoi ? Il paraît que si on nous chope à dire du mal du ministère, on a le choix entre se dénoncer comme djihadiste ou passer un dîner en tête-à-tête avec Manuel Valls.
Tout cela est assez étonnant au pays des droits de l'homme. Tout ça pour redresser l'économie. À ce propos, d'ailleurs, cocasse, marrant, voilà, côté rigolo, je voulais souligner cet élément quand même, l'Europe, qui veut qu'on redresse l'économie, vient de condamner la France car les syndicats sont pas autorisés dans l'armée. Elle est pas bonne, la seule chose qu'on exporte, on en envoie à l'étranger, ça marche du tonnerre, ils veulent qu'on syndicalise. C'est marrant, non ? C'est marrant ? C'est marrant.
Oui, bon.
Bon, bah alors on va changer de sujet.
Voilà.
Alors, pour rassurer tous nos auditeurs inquiets, je vais vous lire un petit mail de Patricia qui prouve qu'elle va on ne peut mieux et tout ça grâce à un métier réellement épanouissant.
Ah, c'est le mail ça là que je vois ? Je peux lire peut-être ? Mais en fait, c'est quoi ? Enfin, c'est des maths, c'est pas une lettre.
C'est un système de cryptage, je vous expliquerai, ça pourrait vous servir.
Merci.
Cher Jean-Paul, bonjour à toi et aux collègues. Je t'écris de ma maison de campagne. Il est 4h du matin et apparemment les somnifères ne suffisent plus à empêcher les souvenirs d'affluer. Je revois encore la petite Chloé tenter de me crever l'œil avec ses ciseaux, tandis que David me faisait une clé de bras parfaite. D'ailleurs, le prof de sport qui était dans le couloir à ce moment-là a gardé une attitude très professionnelle et lui a mis un 18 sur 20 en self-défense, c'est dire. J'ai donc décidé de prendre mon mal en patience en me replongeant dans les trois mousquetaires d'Alexandre Dumas père. Quelle ne fut pas ma surprise, tout y est prémonitoire. Peut-être que le Xanax m'a joué des tours, en tout cas je croyais regarder le JT. Je te fais le topo. Un trio avec un gros rude, un plus âgé et rusé, un ancien religieux sans scrupules qui entretiennent une relation de rivalité. Ça te frappe pas ?
Si je rajoute un quatrième personnage, un cadet ambitieux qui les surpasse tous, c'est pas un portrait frappant de la situation à l'UMP actuellement ? Il est vrai, cela dit, que les épées sont plus facilement tirées au PS de nos jours, mais dès qu'à partie, ça défouraille quand même un peu moins. Alors bon, les trois mousquetaires, tout y est, hein, les scandales, les détournements, Balzac et Big Malion, finalement, c'est tout un. Le personnage le plus dur à identifier, quand même, c'est Milady, mais en écoutant les informations sur France Cus dimanche, ça m'a frappé. Froide, ambitieuse, séduisant l'UMP, faisant les passes besognes d'un cardinal ? C'est Ludovine de la Rochère, bien sûr. Elle serait sans doute prête à se donner à D'Artagnan pour que le mariage gay soit supprimé. Bon, c'est vrai qu'au début, j'avais pensé à Luc Besson hein, comme traître, mais là, elle cadre quand même beaucoup mieux avec le personnage. Enfin, en tout cas, pour revenir à Milady, j'ai hâte de lire le chapitre sur son exécution. Ta Patricia.
Et c'est sur ce beau témoignage que nous allons nous quitter. Merci JP alias Florent et bon week-end prolongé à Patoche alias notre Tatiana adorée qui était vraiment un week-end prolongé en Seine-et-Marne et que l'on retrouvera avec un grand plaisir dans 2 semaines quand elle aura fini sa dépression. Alors on continue de jouer avec l'actualité locale et une question culture de nouveau. Pour quel écrivain lyonnais la rentrée est-elle particulièrement chargée ?
Pivot peut-être.
Alors ce n'est pas Bernard Pivot, mais c'est bien parce qu'effectivement il est de la région lyonnaise, Bernard Pivot.
Pour faire autant de choses, ça peut être que Ruquier, non ?
Alors Ruquier est du Havre, malheureux, du Havre.
Et on ne critique pas le Havre d'abord.
D'abord.
Il a des initiales très longues.
Des initiales très longues, c'est-à-dire qu'une initiale c'est toujours une lettre, Marie-Ève.
E-E-S.
Ah oui, tu as trouvé, sans indice.
C'est lui-même, j'avoue.
Ah oui ?
Alors qui ?
Schmitt.
Éric Emmanuel Schmitt.
Moi non plus, c'est pour ça que j'ai pas osé, je savais pas qu'il était lyonnais.
Il est lyonnais, tout à fait. Et c'est logique hein, c'est qu'on en parle dans cette émission. Du coup, parce qu'il a fait sa cagne au lycée du Parc, Schmitt. Il a d'ailleurs intégré à l'ENS, il en est ressorti agrégé de philosophie. Il a même soutenu en 96 une thèse très sérieuse hein, sur Diderot et la métaphysique. Mais si on parle de lui, c'est pour toute autre chose aujourd'hui. C'est parce que c'est l'homme de cette rentrée. 3 pièces de théâtre jouées à Paris, 1 livre publié dans le cadre de la rentrée littéraire Le Poisson d'amour, c'est son titre, et même un album musical pour la jeunesse sous la forme d'un conte, Le Carnaval des animaux. Alors bon, une question, une actualité florissante, mais est-ce que vous avez déjà lu du Éric Emmanuel Schmitt autour de la table ? Jérémy ?
L'élixir d'amour, qui ouais. est son précédent livre, et dont je pense Le Poison d'amour est une suite,
d'accord. Hein,
vraisemblablement. Enfin, en tout cas, il y a un écho avec la couverture et le thème. Et La femme au miroir.
Marie-Ève, tu as opiné. Toi, qu'est-ce que tu connais d'Éric Emmanuel Schmitt ?
Ce sont ses livres sur les compositeurs de musique. Donc
d'accord.
Beethoven, avec le titre à rallonge, dont je ne me souviens plus en intégrale.
Très bien. Alors Marie, non, tu connaissais de nom quand même ?
Ah si, ah, je oui, connais. Si. J'ai lu une seule chose d'Éric Emmanuel Schmitt. C'était une pièce de théâtre, c'est La Nuit de Valogne. C'est une réécriture de Don Juan. Et c'est vraiment très très intéressant.
Ah oui, d'ailleurs, j'ai oublié Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran aussi.
Et oui, toute cette série, effectivement, qui était
aussi.
Très très bien. Et toi, alors
Alors moi, j'ai lu La Nuit de Valogne aussi et La Part de l'autre.
D'accord.
Sur, ouais, la
sur Hitler.
D'Hitler s'il avait réussi aux Beaux-Arts.
Alors on l'a dit, Éric Emmanuel Schmitt, c'est un Lyonnais. Et s'il nous écoute, je suis sûr qu'il est déjà fan de ta chronique, Marie. Et pas seulement parce que tu as dit que tu viens de le lire, non, non. Puisqu'à chaque émission, Marie, tu nous parles de l'histoire de Lyon, avec un ton légèrement décalé. Et après aller à Préhistoire il y a 2 semaines, voyage dans le temps. Bienvenue à Lugdunum.
Lyon n'était pas encore Lyon. En 43 avant le Christ, ça change. Lyon est fondée comme colonie romaine par Lucius Minatius Plancus. Je me suis dit que ça ressemble à Plancu, qu'il y a des mecs qui partent mal dans la vie et que c'est ridicule. Donc la belle ville où nous habitons a été fondée par un Plancu. Elle s'appelle Colonia, Copia, Félix, Munatia, Lugdunum, parce que les Romains sont des mecs qui aiment la sobriété. Elle est composée de 4 sites. La ville haute sur la colline de Fourvière, avec temple, forum, théâtre, cirque, course de chars, OL, Gerland, supporters lyonnais.
Tu bug.
Oh mon dieu. La ville basse, au pied de la colline de Fourvière, les Canabae et leurs entrepôts sur la presqu'île qui est encore une île, si vous suivez un peu. Le bourg Bobo Hipster de Condat, au pied de la Croix-Rousse, peuplé de Gaulois barbus parce qu'être romain au 1er siècle, c'est bien trop mainstream. En 27 avant Jésus-Christ, Lugdunum devient capitale de la province de la Gaule lyonnaise. Province qui va des monts du Lyonnais à la Normandie et la Bretagne, le Havre RPZ, parce que les Romains sont des mecs qui prennent la logique, qui la retournent et qui la niquent. Lugdunum devient aussi la capitale des 3 Gaules. Les 4 voies romaines majeures s'y rejoignent, ça fait un carrefour en étoile, c'est puissant. Allez, Paris Lutèce, prends-toi ça dans la gueule. Les Romains endiguent les cours de la Saône et du Rhône. Ils fixent leur confluent beaucoup plus au sud, parce que les Romains sont des mecs badass et qu'ils détournent les rivières s'ils veulent.
Ah ouais, tout ça, hein.
Ils ont dit, qui veut habiter à Confluence? Les Gallo-Romains ont dit, on a une gueule à habiter à Confluence? Personne n'habite à Confluence. En 64 après Jésus-Christ, Rome, dans sa période, l'empereur Néron se prend pour une rockstar, crame. C'est con. Lugdunum envoie 4 millions de sesterces pour aider à la reconstruire. En 65 après Jésus-Christ, Lugdunum, dans sa période, on est tellement friqué qu'on file 4 millions à Rome, ouais, comme ça, et ne nous parlez pas d'évasion fiscale, crame. Néron envoie à son tour 4 millions de sesterces pour la reconstruction. Ça, c'était franchement pas con. Au 2e siècle, Lugdunum compte sans doute plus de 50 000 habitants, et tout le monde y est paxé. Quoi ? Comment voulez-vous dire autrement que les Romains ont imposé la paix, la Pax Romana, dans toute la ville ?
Alors retour au présent, si vous le voulez bien, on continue de jouer avec l'actualité locale grâce à cette question. Qui était Bubu, dont tous les Lyonnais ont pleuré la disparition jeudi 2 octobre à l'âge de 91 ans ?
Un Teletubby.
Non.
Une tortue du parc de la Tête d'Or.
Non.
Un arbre de la Tête d'Or. Un chêne, non ?
Toujours pas. Alors, Bubu est une vraie personne qui a été très très appréciée.
Un poisson, c'est une vraie personne.
Un pire Teletubby.
Merde, mon spécisme.
C'est quoi cette discrimination ?
C'était un grand monsieur qui est mort jeudi dernier. Certes, il était moins connu depuis quelques décennies, mais il fut un grand nom dans son domaine. Bubu, de son vrai nom André Buffière, que tout le monde surnommait affectueusement hein, Bubu. Mais dans quel domaine s'est-il illustré ?
L'alcool.
Non.
C'est encore culturel ?
Non, ce n'est pas culturel.
C'est sportif ?
C'est sportif.
Ah, parce qu'il y a un vieux monsieur qui court toujours le long du Rhône, mais je ne sais pas si c'est lui, je l'ai encore vu.
Eh bien, je pense qu'il court encore, ce n'est pas lui qui est mort jeudi.
Ah bah ouf, parce que je ne l'ai pas encore croisé celui-là et on m'a tellement promis.
Bah va boire un coup ce soir à la guillotière et tu vas le croiser.
Au moment où tu entends les gens qui commencent à applaudir, il arrive.
C'est ça. Au pire, si regarde, c'est pas le Facebook.
Si je vous dis Kobe Bryant, Kevin Durant, Céline Dumère, Nicolas Batum, LeBron James.
La boxe ?
Non,
non,
pas
il
la
parle
boxe.
De basket.
Et oui, effectivement. Mais donc, Bubu était un basketteur, effectivement. C'est même une légende du basket français, nom de Dieu, qui s'est éteinte jeudi dernier. Bubu, 96 sélections entre 1946 et 1955 en équipe de France. Et au bout, une médaille d'argent au JO de 48 à Londres. Bubu, c'est aussi 6 titres de champion de France, dont 4 avec l'ASVEL. Mais Bubu fut aussi entraîneur, notamment de l'ASVEL, son club de cœur, vous l'aurez compris. Et en tant que coach, il a soulevé 5 trophées du championnat de France, avec cette particularité hein, qu'à une époque, à l'ASVEL, il fut en même temps joueur, entraîneur et recruteur. Ainsi, par exemple, en 1950, 52 et 55, quand il devient champion de France avec l'ASVEL, c'est à la fois comme joueur et comme entraîneur. Un sacré bonhomme, ce Bubu, hein, quand même. C'est pas aujourd'hui qu'on peut faire ça. Hein.
Comment tu voulais qu'on sache tout ça ? Il est mort avant même que... Enfin, il a fait tout ça alors que nos parents étaient même pas nés.
Et les cours d'histoire, ça sert à quoi, alors ?
Cours d'histoire, c'est pas l'équipe, quoi.
Puis de toute façon, les cours d'histoire, passé le 15e siècle, c'est du journalisme. Hein.
Ouais.
Eh bien, on va rester du côté de l'équipe avec Romain, dont je vais lire maintenant la chronique. Décalage horaire et topic entre Provins et Lyon oblige, et grâce à lui, vous saurez tout de l'actualité sportive lyonnaise. Commençons cette chronique par une nouvelle qui va en décoiffer plus d'un. L'OL a fait un bon match et a marqué 3 buts face à la défense de fer de Lille. Notons d'ailleurs le triplé d'Alexandre Lacazette ainsi que la victoire, outre de l'Olympique lyonnais, de la SSBFL, la Société secrète des bons joueurs de Lyon, avec en tête d'affiche notre buteur du jour. Alors, comme toute société secrète, ils sont peu nombreux à l'OL. En même temps, every magic comes with a price. Continuons dans le monde du ballon rond avec une citation. Un jour, un sage a dit « Désespoir total ». C'est ce que doivent se dire les équipes de foot féminin du reste de la France lorsqu'elles voient s'annoncer le nom de l'OL sur leur calendrier. Les Lyonnaises enregistrent en effet une nouvelle victoire à leur compteur 4-1 sur la pelouse de Juvisy pour les résidentes de Gerland. Parlons basket maintenant avec l'ASVEL, le club de Bubu, hein, qui est une machine qui va et qui vient, l'ASVEL. Un fort potentiel, avec un 5 majeur alléchant, et pourtant des problèmes de concentration récurrents. Par exemple, alors qu'il jouait pour aller en Euroleague contre Kazan, l'équipe de Lyon-Villeurbanne a été recalée 79-88, alors qu'elle avait quand même 19 points d'avance à l'entame du quatrième quart-temps. Mais vous savez, les envies pressantes collectives, ça ne se contrôle pas. Rebelote encore des fuites contre Strasbourg cette fois lors de la première journée de Pro A. Mais là, c'est le navire qui a coulé. Zéro défense, zéro lucidité offensive. Un constat décevant pour une équipe aussi bien dotée que l'ASVEL. Ils ont néanmoins battu Cholet lors de la deuxième journée 67-56. Avec donc, je répète le score, 67-56. Un score digne d'un match de cadet départemental. Partons dans le monde de l'Ovalie maintenant, où rien ne va plus à Lyon pour le loup. Il n'est pas loin de se faire dévorer par l'agneau et sans sacrifice, s'il vous plaît, net, propre et efficace, les protégés de Ségolène Royal et leur club de La Rochelle ont donc battu 29-8 nos rugbymen lyonnais, repartis la queue entre les jambes, comme souvent. La zone de relégation n'en finit pas de se rapprocher. Plus que quelques jours, messieurs, soyez patients, citons de nouveau notre sage qui répond au doux nom d'Arsène Wenger. Désespoir total. Partons maintenant au pays des crosses bien dures et du petit palais qui finit généralement dans...
Mais c'est... Non mais attends, mais juste, c'est pas possible. Ton frère, il bosse pour une boîte d'échangisme à Lyon, il fait la pub par ce canal. Moi, je pense qu'il faut annuler cette chronique depuis
dans
tout à l'heure.
Dans les jambes, bande de cochons.
Dans bande de cochons aussi, enfin tout ça, c'est dégueulasse.
Le club du LHS de Lyon en hockey sur glace, vous l'aurez deviné, bien sûr, a perdu 1-3 contre Syracuse.
Non mais si quelque chose gagne à Lyon, on s'inquiéterait dans cette chronique aussi.
De là. Nouveaux matchs sont prévus à la maison, peut-être des chances de victoire notamment contre le Gap, mercredi 15 à l'occasion de la Hockey Week. Et pour terminer cette chronique sportive, Romain élargit sa focale et décerne un clin d'œil sportif national ou international. Un grand bravo aux voisins de Haute-Savoie, le TG. Au passage, c'est le club fétiche de Romain. 3 victoires d'affilée, ce qui le fait remonter à la 15e place avec 10 points. Notons que c'est la première série de 3 victoires d'affilée en Ligue 1 dans l'histoire de l'ETG. Ça, c'est le reblochon, je vous le dis. Romain, le reblochon, il en trempe parfois dans son chocolat chaud, parole de frère. Et si, malgré cette anecdote qui a l'air de faire verdir Marie-Ève et Florent, il vous manque déjà...
Ça m'excitait un peu.
Pas de panique.
Moi, je vais tester demain.
Il reviendra vous exciter dans le prochain numéro des Gaunes. Vous tenir au courant, en tous les cas, par ma voix, de ce qu'il se passe dans le monde sportif lyonnais. Et d'ici là, surtout, n'oubliez pas, lavez-vous après le sport, sinon vous sentirez le phoque. Après l'actu, on passe maintenant aux associations. Dans chaque émission, nous mettons en lumière une association lyonnaise. Et pour ce deuxième numéro, c'est, après le Petit Paumé, une autre association étudiante qui parle de Lyon, mais pas que. Et en tous les cas, donne envie de sortir l'Envolée culturelle, journal et site internet rédigé par des étudiants de l'université Lyon 2. L'Envolée culturelle, c'est d'abord un site internet, www.l'envoléeculturelle.fr, sans accent, espace ni apostrophe. Un site, 8 rubriques, littérature, théâtre, cinéma, musique, cirque et danse, exposition, festival et enfin, coup de cœur de la rédaction. 114 articles déjà publiés sur ce site, une foule de partenariats avec les acteurs de la scène culturelle lyonnaise pour pouvoir alimenter ce site. Mais l'envolée culturelle, c'est aussi une version papier, sortie exceptionnellement pour la rentrée de septembre et qui vaut vraiment le coup. Elle fournit un bon résumé de ce qu'est l'envolée culturelle, de son ton, de ses ambitions, et la version papier est disponible en format numérisé sur le site internet. La boucle est bouclée. Et pour en parler, il est là depuis le début de l'émission, mais maintenant c'est son moment, Jérémy, qui est bien placé pour représenter aujourd'hui l'envolée culturelle sur les ondes de Transistor, puisqu'il en est le président fondateur. Mais avant de commencer cette interview, voici l'envolée culturelle en quelques chiffres grâce à la fiche signalétique de l'association.
fondation de l'association.
Une association très récente, puisque le blog a été lancé le 28 mars dernier et que la publication de l'association au journal officiel date quant à elle du 7 juillet 2014.
Un grand nombre de membres.
Oui, 22.
Un budget impressionnant.
De 1500 euros.
Alors pendant les interviews, nous écouterons des extraits de la scène musicale lyonnaise. Pour ce deuxième numéro, plusieurs artistes. Et puisqu'il faut bien commencer quelque part, on écoute justement quelque part du groupe de néo-métal symphonique lyonnais Kels. Alors l'envolée culturelle, c'est, je reprends les mots qui sont sur l'édito de ton site, Jérémy, le journal associatif de la culture. Mais quelle est la différence ou les différences entre les pages culture d'un hebdo ou d'un quotidien local ou national et puis l'envolée culturelle ?
La différence, c'est que déjà, nous sommes un journal entièrement gratuit et à but non lucratif et les rédacteurs ne sont pas rémunérés, déjà.
Et c'est important qu'on parle de culture sans avoir ce côté lucratif ?
Pour nous, ça nous paraît évident, c'est pour ça que sur le site, on ne fait pas de pub à aucun moment, et je souhaite que ça n'arrive jamais, parce que, et c'est notre engagement auprès aussi de tous nos partenaires, on parle de l'artistique avant tout. Le but, c'est de promouvoir la culture et non pas une structure.
Mais alors pourquoi on vous lirait, vous, plutôt que les pages culture du progrès ou, diamétralement opposé, Télérama ? À part que c'est gratuit, vous ?
Parce que nous, on a la classe. Non, plus sérieusement...
C'est une bonne réponse.
Plus sérieusement, on essaye dans nos articles de ne pas se contenter à un simple synopsis ou un résumé de ce qu'on a vu, de ce qu'on a lu. On essaye de toujours amener une certaine analyse. Ensuite, l'avantage d'être un journal étudiant et universitaire, c'est que chaque personne écrit dans une catégorie parce qu'il est a priori un peu spécialisé. On a des étudiants de lettres qui écrivent pour la littérature, on a des étudiants en théâtre qui écrivent pour le théâtre et vice-versa.
Et oui, et d'ailleurs, tu le soulignes, je le disais tout à l'heure dans la présentation aussi, l'envolée culturelle, c'est l'ambition d'informer sur des événements culturels de la région lyonnaise, mais pas seulement. Et d'ailleurs, j'aime cet éclectisme que tu soulignais, parce que vous parlez théâtre, cirque, danse, exposition, c'est important cette diversité.
La culture est diverse d'ailleurs, donc par conséquent, oui, pour nous ça nous paraissait important. Après, comme on est basé à Lyon, c'est plus facile de promouvoir les événements de la région. Néanmoins, on ne s'interdit rien.
Et je me suis promené du coup sur le site pour préparer cette interview. Et j'invite d'ailleurs nos auditeurs à le faire, hein, parce que votre site, il est très sympa, il est bien fait. Il se laisse parcourir avec plaisir. Et je suis ainsi allé dans la rubrique « Musique ». Et il y avait des articles sur Ronan Luce, Christine and the Queens, Bernard Lavillier, Alexis HK et Sophie Tite notamment. Mais... Alors déjà, bonne playlist, mais exception faite de la gagnante de la Nouvelle Star version D8, elle est où la scène musicale de Lyon ? Parce que je sais bien, tu l'as dit, on va pas se contenter juste de parler de Lyon, mais là c'est un peu Lyon qui manque, non ?
Mais justement, on va se rattraper, c'est prévu. Ah. Nous avons des partenariats avec certaines salles lyonnaises,
oui,
notamment le Jack, qui promeut des artistes lyonnais. Donc normalement, nous allons voir plusieurs concerts dans les mois qui vont venir. Et on espère pouvoir proposer des artistes lyonnais. Après, l'autre chose aussi, c'est qu'on écrit par rapport à notre sensibilité. Et c'est aussi ça qui est important dans ce journal. Justement, un lecteur a mis un commentaire sur un de nos articles en disant que ce qu'il appréciait dans notre démarche, c'est qu'on écrivait avec le cœur. C'est-à-dire qu'on n'écrit pas dans l'idée de promouvoir effectivement uniquement Lyon ou de promouvoir quelque chose parce qu'on aurait une obligation. Bien au contraire, c'est vraiment quelque chose qui nous a plu, qu'on a aimé. Et donc si on découvre un groupe lyonnais qu'on trouve génial, évidemment, on va en parler. Et on attend que ça d'ailleurs.
Eh bien alors peut-être ce sera Buridan, et la chanson s'appelle « Vice et vertu, tout un programme ».
Le rêve casse la réalité, transforme tout en château fort. Entour imprenable et buté comme si c'était nous le trésor. La triste vérité, c'est que dans le fond tout le monde s'ignore. Nous serions métamorphosés si l'on osait qu'elle...
Alors musique, peut-être mis à part. Les différentes rubriques de votre site mettent bien à l'honneur Lyon hein, et sa région. Et pour cela, il me semble que tu as pas mal de partenariats avec des institutions culturelles locales. Alors, sans en faire un relevé exhaustif, hein, c'est le moment de te la péter un peu et de nous dire qui sont tes partenaires.
Oula.
Culturel.
Alors, bien sûr, j'imagine. Non, mais
il y en a combien déjà ?
On n'est pas ici pour
le nombre exact, on doit en être gros. Arrivé aujourd'hui à 19 ou 20 partenaires.
Ouais, alors on va pas faire les 19 effectivement, mais
On peut dire par exemple pour pas faire de concurrence, les plus grands théâtres de la ville de Lyon.
Ouais.
Les gros musées de la ville de Lyon aussi. Mmh.
Donc on ne citera pas de nom, c'est ça, pour ne pas qu'il y ait des jaloux, j'ai bien compris.
C'est exactement ça, mais bon, du coup, les gens qui s'intéressent un peu à la culture doivent le savoir. On a aussi des partenariats donc avec la Villa Gilet, pour tout ce qui concerne les festivals de littérature et les conférences littéraires aussi, ou philosophiques et historiennes dans le cadre de Mode d'emploi qui aura lieu au mois de novembre, avec un cirque aussi, un cirque sédentaire donc, le cirque
Imagine. Et c'est difficile, tu parlais tout à l'heure de musées assez importants, de théâtre reconnu sur la scène lyonnaise, c'est difficile quand on est une association étudiante d'arriver et de nouer ce genre de partenariat ?
Alors c'est difficile au départ parce qu'on est impressionné. C'est-à-dire quand on va vers eux, on n'ose pas demander, on a un peu peur, on se dit c'est tellement gros que jamais ils vont vouloir nous recevoir, et c'est bien tout le contraire qui se passe. En général, le fait que nous soyons des étudiants, qu'il y ait un projet, qu'il y ait une idée, que le but soit de promouvoir la culture, les intéresse énormément. Et d'ailleurs, on a eu la chance à chaque fois de tomber sur des gens qui nous ont proposé bien plus que ce que nous-mêmes on imaginait.
Alors, sur Transistor, il y a une émission qui s'appelle En Spectateur, dont Marie est autour de la table.
Pas de publicité clandestine.
Peut parler, et qui met en valeur le spectacle vivant sur Lyon. Le projet, c'est un peu le même. Hein. On se prend pas pour des experts, ni des critiques professionnelles, mais on donne son avis, argumenté. Est-ce que t'as l'impression, toi, de ton côté, Jérémy, que ce profil d'étudiant, sans prétention particulière, il peut plaire à certaines institutions, parce que ça leur fait un retour différent de la presse, on va dire ?
Bah oui, non, ce qui les intéresse avec notre initiative, c'est que d'une, ils sont contents de toucher des étudiants, de voir que des étudiants s'intéressent à eux, et ils espèrent en toucher d'autres. C'est-à-dire que jusqu'à présent, ils touchent un large public, ils ont évidemment leurs abonnés et tout ça, mais le public étudiant se déplace peu ou pas assez, notamment parce qu'il y a une richesse culturelle énorme à Lyon. Donc c'est dur de toucher les étudiants.
Tu parles de tes partenaires. Est-ce que c'est compliqué quand on va voir un spectacle et qu'on n'aime pas ?
Alors non, pas du tout, parce que
parce qu'ils te donnent un accès privilégié, ils te donnent des places. Est-ce que tu vas pas être un peu tenté de modérer un peu la critique pour pas déplaire aux partenaires ?
Alors non, parce que on a créé un rapport de confiance avec eux. Maintenant, nos critiques négatives sont constructives. C'est-à-dire qu'on critique pas juste pour dire « oui, c'est nul, c'est pas intéressant, il n'y a rien qui se passe ». Non, c'est toujours argumenté et clair. Et on s'est rendu compte que les responsables de la communication, en tout cas ceux qu'on a rencontrés, étaient d'accord avec nous. Quand on avait massacré une pièce, ils étaient plutôt d'accord avec nous. Ce qui prouve qu'ils respectent notre intégrité. Et qui trouve que c'est bien. Et je pense que c'est aussi ça qui fait qu'on arrive à avoir des lecteurs aujourd'hui.
Le vent des merveilles fera s'envoler nos histoires anciennes, nos histoires passées. Et nos courses folles pourront s'arrêter sous le hêtre et le chêne. Nous sommes mariés tout dessus ou dessous ce cœur.
Instant poésie sur Transistor avec la divine Amélie Les Crayons et un extrait de Tout de nous. Et maintenant, grâce à nous, vous savez presque tout de l'envolée culturelle. Et puisque j'ai en face de moi un de ses rédacteurs, au fait de la vie artistique lyonnaise, vous l'aurez compris, eh bien, j'en profite. Jérémy, c'est la rentrée littéraire. Et comme chaque année, il y a un nombre impressionnant de livres qui sont publiés, à tel point qu'on s'y noie un peu. Quel livre ? Tu nous conseilles qu'il soit lyonnais ou pas lyonnais
Nous ne faisons pas semblant d'une jeune auteure israélienne. J'ai perdu son nom parce qu'il est imprononçable, mais ça a l'air super, super sympa. Et je pense que je le lirai bien.
L'antisémitisme là quand même.
Non, mais c'est dur à prononcer et du coup je l'ai pas retenu. Mais
ça commence comme ça.
On ne t'en veut pas, tu vas pouvoir te rattraper puisque Marie, je le disais tout à l'heure, est un immense spectateur. Mais pour l'instant, ça n'a pas encore repris sur les ondes de Transistor. Alors tu peux peut-être la remplacer juste l'espace de quelques minutes, pas plus Marie, t'en fais pas. Et nous donner envie d'aller au théâtre à Lyon.
Alors dans les prochains jours, mon traître de Sorge Chalandon, mon traite de mis en scène par Emmanuel Mérieux, qui est une reprise des pièces de des livres pardon de Sorge Chalandon.
Quel théâtre?
Au théâtre de la Croix-Rousse. Donc ça sera mi-octobre. Et sinon là, la belle découverte que j'ai faite, c'est le Cirque Imagine et Enigma, un spectacle donc de cirque avec un orchestre sur scène qui a lieu le 13 et le 14 octobre.
Et
à Vaulx-en-Velin, au Cirque Imagine justement. Et ça a l'air assez original. En fait, je pense que j'aime bien tout ce qui est réécriture et originalité.
Ouais. Et ben, en tout cas, tu le vends bien, ça donnait envie. Donc peut-être nos auditeurs iront faire un tour. Et à mon tour de vous faire découvrir dans la catégorie musique, cette fois un groupe lyonnais très original, un groupe de dub. Alors vous connaissez le dub autour de la table?
Oui. C'est un plat lyonnais, non?
Oui, tu connais le dub, Jérémy?
Je suis bientôt en parler.
Bon, et ben alors tu sais que c'est un genre musical qui est issu du reggae? Qui remixe en temps réel à partir de bandes magnétiques par des ingénieurs du son. Et là, ce que je vous propose d'écouter, chers auditeurs, c'est un extrait du groupe iTone. Tu connais aussi, Jérémy?
Ah non.
Pas celui-ci. Bon.
C'est pas un logiciel d'écoute de musique?
Non. C'est pas du néo-dub harmonique philharmonique?
C'est du dub tout court. Le dernier album est sorti en mars dernier, mais là, c'est un peu leur tube. En tous les cas, un morceau programmatique dont je vous propose un extrait, Rub-a-Dub Anthem, écoutez. Alors, dernière question, Jérémy, avant de te laisser entre les griffes des gones.
Des gones? Putain, Thomas, des gones! Salaud!
Et c'est un rituel en quelques mots. Qu'est-ce que cela représente pour toi, l'engagement associatif?
Je dirais que l'engagement associatif, c'est avant tout une conviction et un amour de ce qu'on fait. Je pense que quand on s'engage dans une association, c'est qu'elle défend des idées ou des valeurs, en tout cas, dans lesquelles on se reconnaît. Et selon moi, c'est le plus important. Parce que c'est parce qu'on croit en une idée ou en un projet d'association qu'on va s'investir.
Et bah c'est très bien dit, Jérémy. Je te laisse maintenant face à mes gones. Je te préviens, le premier contact peut être rude. Leurs questions sont provocantes, absurdes, décalées, stupides, mais ils te les posent quand même. Et notamment, eh bien, Marie.
Alors, je suis allée voir sur le site, parce que je suis sérieuse, et j'ai vu que vous projetiez d'avoir à peu près une contribution par semaine, ce qui est quand même beaucoup, sachant qu'en plus vous êtes une association toute jeune et tout. J'ai vu qu'il y avait pas mal de coups de cœur. Alors moi personnellement, j'en ai pas autant dans la vie. Alors, je suis peut-être juste aigrie, qui sait.
Et, oui, il faut le dire.
Merci Thomas. Et je voulais savoir pourquoi autant de coups de cœur. Vous vous définissez comment? Vous êtes particulièrement indulgent, particulièrement soudoyé ou particulièrement bisounours?
Alors déjà, les coups de cœur, c'est chaque rédacteur a le droit à un coup de cœur, ce qui fait qu'au final, si on regarde bien, on doit avoir peut-être deux coups de cœur par rédacteur à l'heure actuelle, ce qui fait peu sur une période de 6 à 7 mois. Je tiens à le préciser. Ensuite,
ça, c'est pour le côté aigri, tu vois. Tu peux avoir jusqu'à deux coups de cœur tous les 6 mois, quoi, Marie. Ce serait normal.
Non, après, le coup de cœur n'a rien à voir avec le monde des bisounours ou une certaine question commerciale. C'est juste quelque chose qu'on a aimé et qu'on a envie de faire partager. On essaye, dans la mesure du possible, que ce soit des œuvres peu connues. Bon, parfois, c'est connu, c'est comme ça. Mais on essaye de faire découvrir voilà, des choses qu'on a aimées et qu'on espère pourront plaire à d'autres.
Alors lui, c'est tout sauf un bisounours. Florent, tu as peut-être une question de gone pour notre invité?
Alors d'abord, je voulais dire que moi, je trouve que aimer des choses qui sont connues, c'est complètement antithétique. Enfin, c'est totalement mainstream. Par ailleurs, j'avais une question.
Là, tu fais Tatiana?
Ouais, je faisais Tatiana. Alors,
coucou Tatiana, désolé.
On a vu qu'il y avait un budget de 1500 euros et du coup, t'as pas parlé de ce budget. Je voulais savoir comment ça marchait, votre financement, notamment si vous avez imprimé, vous avez des frais, enfin, je veux dire, par rapport à un site internet. Du coup, d'où vient le budget? Première partie de la question. Et d'autre part, vu que ma question concerne particulièrement le fait que vous imprimiez, comment vous distribuez ce journal?
Bon, elle est finie ta question là?
Ouais, c'est Tatiana qui déteint sur toi là.
Donc, le budget, alors c'est. Pour l'instant, c'est l'université uniquement qui nous alloue une subvention annuelle, donc qui était de l'ordre de 1500 euros pour cette année. Ça va changer l'année prochaine, mais on ne sait pas encore dans quelle mesure. Et donc, cet argent sert essentiellement donc à l'hébergement du site internet, à l'enregistrement du nom de domaine du site, et donc, effectivement, à publier la version papier, mais aussi à acheter des livres, parce que j'essaye, dans la mesure du possible, de ne pas faire trop ouais. dépenser ouais. nos rédacteurs.
Qu'est-ce qu'est les rédacteurs ?
Voilà. Donc, on évite ce genre de choses, surtout quand on impose des livres. Par exemple, quand on couvre des festivals, on est obligé de lire les livres des auteurs invités. Donc, dans ce cas-là, je ne vais pas imposer à un, auteur, à un rédacteur d'acheter un livre 20 euros et que le livre ne lui plaise pas en plus.
Ouais.
Donc, dans ce cas-là, on utilise l'argent de l'association. Et pourquoi une version papier ? Comment on la distribue ? C'est donc, comme je disais, c'était pour marquer le coup. En fait, l'université Lyon d'Or organise chaque année une semaine d'intégration des étudiants de première année. Donc, nous, il nous fallait un événement.
Alors après le GON intéressé, la GON intéressante, Marie-Ève a une question pour notre invité.
Une question tout à fait intéressée également. D'après ce que tu as dit sur les partenariats tout à l'heure, est-ce qu'on peut, quand on est un artiste lyonnais encore pas très connu, ou un écrivain ou une écrivaine potentiellement connaissable, est-ce qu'on peut prendre son envol littéraire en venant à l'envolée culturelle ? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut faire carrière et démarrer grâce à vous ?
Bah, je le souhaite. Après, on n'a que 6 mois d'existence, enfin 7 mois, donc du coup, pour l'instant, personne n'a fait carrière chez nous encore, ou aussi chez nous en tout cas, mais ailleurs, non. Maintenant, si ça, la plupart de nos rédacteurs s'intéressent au journalisme, certains veulent faire du journalisme, d'autres le font uniquement par passion, par plaisir.
Mais est-ce que vous serez prêt à faire du piston aussi ? C'est ça que je veux savoir.
Ah, du piston ?
Elle a l'air vraiment intéressée, en fait, ta question, Marie-Ève.
Bah, le piston, c'est-à-dire que je vois pas trop, en fait, à quoi on pourrait se servir. C'est-à-dire qu'on n'est pas vraiment. Non, mais je veux dire, pour faire du piston, faut à un moment donné avoir
C'est une bonne conclusion d'interview,
pouvoir,
ça. Ouais.
Non, mais faut avoir du pouvoir. Non, mais c'est vrai, faut avoir du pouvoir. Et nous, en l'occurrence, on n'a aucun pouvoir vraiment. Donc, faire rentrer quelqu'un chez nous, n'importe qui peut rentrer. Il suffit de payer son adhésion de 5 euros. Maintenant.
Et vous n'êtes pas obligé d'être impuissant pour payer cette adhésion. Alors, ces questions de GON, c'était comment ?
Original.
Merci d'être venu en tous les cas, Jérémy, nous parler de l'envolée culturelle, dont je rappelle le site www.l'envoléeculturelle.fr sans accent, espace et apostrophe, tout simplement. Et si on sortait dans cette dernière partie de l'émission, on fait un peu comme toi, Jérémy, à l'envolée culturelle, on donne envie de sortir à nos auditeurs. Pour cela, on se la joue collaboratif, puisque chaque GON donne ses plans ou ses envies de sortie. Et on commence avec toi, Marie-Ève, fais-nous rêver en ton nom, ce jour d'anniversaire.
Oui, tout à fait, sur la lancée de ma chronique de la dernière émission et sur la lancée de celle d'aujourd'hui que vous allez entendre tout à l'heure, j'ai prévu d'aller samedi 11 octobre prochain à Nantua, où est organisée la 7e édition de la fête de la quenelle sauce Nantua. Au programme, marché des délices et dégustation de quenelle sauce Nantua et de vin du Bugey, vente de ces mêmes quenelles et de sauce Nantua, mais aussi défilé des confréries en musique, avec même un concert de corps de chasse par le rallye des...
C'est vraiment, mais c'est terrifiant, mais c'est terrifiant. Le rallye...
Ton week-end a l'air super sympa.
Et ils font du dubstep aussi les...
Par le rallye des troupes
au Yonexien. On comprend pourquoi Lyon est la capitale de l'échangisme quand on sait qu'il y a des fêtes de la quenelle. Quoi.
Et donc pour Florent, il y aura démonstration de roulage et de pochage de quenelle et démonstration de fabrication de sauce Nantua. Et pour finir, un concours de l'assiette également où tous ceux qui aiment faire la cuisine peuvent présenter leurs plats.
Alors Marie, est-ce que tu vas aller à la fête de la quenelle de Nantua ?
Moi, j'aurais peur d'y croiser Dieudonné. Hein.
En plus.
Écoutez,
j'aurais peur d'y croiser des corps de chasse. Hein.
Où vas-tu aller, Marie ? Donne-nous envie, toi aussi.
Alors,
mais vraiment, cette fois-ci.
Vraiment.
Oui, oui.
Alors, le 15 octobre, donc, qui est un mercredi, à 14h30, je compte aller à la Halle Tony Garnier voir Le Voyage de Chihiro. C'est projeté dans le cadre du Festival Lumière. Alors oui, ce sera en VF. Oui, la salle sera bourrée de marmots qui vont crier, gueuler dans tous les sens. Mais
c'est
bon,
probable, oui.
Ça coûte
si
6 euros.
Si vous voulez adopter un enfant, d'ailleurs, c'est le moment. Il y en aura sans doute des perdus près des toilettes. Allez-y. Oh.
Mais bon, en tout cas, ça coûte 6 euros. Le goûter est offert. C'est juste le moment de beauté dont j'ai besoin entre ma pause déjeuner et mon cours de latin médiéval. Et puis surtout, c'est un Miyazaki projeté sur grand écran. Il faut y aller absolument. C'est non négociable.
Alors Jérémy, toi, t'es plutôt fête de la quenelle à Nantua ou plutôt Miyazaki à la Halle Tony Garnier ?
Moi, c'est Miyazaki et j'hésite encore à aller à mon cours ou aller au cinéma.
Bon, alors,
viens au cinéma, viens au
franchement,
cinéma.
Franchement, avec la grille, t'auras d'autres cours dans l'année alors que des Miyazaki.
D'où mon hésitation. Oh.
On ne te dénoncera pas de toute façon. Et une promenade sur les bords de la Saône, ça te dit ou pas?
Oui, pourquoi pas.
Ouais, bah en tous les cas, c'est là que je vous emmène avec ma chronique Insolitement Lyon. À chaque émission, je vais vous raconter les secrets de Lyon, tout ce que vous ne savez pas des monuments ou des rues que vous connaissez pourtant, et tous ces petits détails que vous manquez en passant tout à côté. Renouvelez votre abonnement TCL, achetez-vous une bonne paire de chaussures, je vais vous faire découvrir ou redécouvrir Lyon. Sous le pont d'Ainé coulait la Saône et nos amours. Mais y a-t-il quelqu'un qui s'en souvienne ? Le pont n'est plus et il ne reste que deux culés. Et quand je dis deux culés, Florent, je n'insulte pas les homosexuels. Eux, je trouve souvent qu'ils ont un beau cul. Rien à voir avec des culés, donc. Rappelons avant tout dérapage, qui a dit trop tard, que la culée d'un pont est la partie située sur la rive destinée à supporter le poids du tablier de sapeur si vous êtes du genre gras double. Pour revenir à nos moutons de pont, le nôtre attendrait bien, ben, qu'on le redessine pour plaire à Saint-Ex. Parce que couler, il ne reste que séculer, certes séculière, et circuler, il n'y a plus que ça à voir, mais où ? Eh bien, en face du square Jean-Mau, rive gauche, pardi. Et aux deux, rue de la Quarantaine, si vous êtes malade, comme Florent, rive droite. Sur le pont d'Avignon, l'on y danse, et sur le pont d'Ainé, il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. La faute à des pillards qui, lors de la Révolution, ont voulu barboter du métal pensant que personne ne s'apercevrait que des pièces maîtresses du pont avaient été volées. Pas de bol, ça s'est vu, le pont s'est écroulé. Il fut reconstruit en 1818, mais après avoir laissé leur Barbie, pas vraiment sexy, jouer dans des caves avec tous ces Ken français, les Allemands, un brin théâtral, certainement amateurs des feux d'artifice et leur bouquet final, Sehr wunderbar, l'ont fait sauter le 2 septembre 1944 avec tous les autres ponts. Mais attention, il faut pas les juger trop vite, les Allemands. Polis, ils ont prévenu la populace d'un bon Hartung, bicyclette, clé à molette. Toujours dans la série des ponts de Saône disparus, je vous emmène maintenant devant le stade de Gerland, admirer deux lions en fonte industrielle. Avant d'être placé à Gerland, eh bien ces deux lions ornaient avec deux autres potes les extrémités du pont de la Feuillée, lancé sur la Saône en 1831, détruit par les mêmes Allemands en 1944 et jamais reconstruit. Les lions sont restés sains et saufs, ils ont été réutilisés, et c'est pourquoi bah, deux rois des animaux jouent les gardiens du temple du ballon depuis 1962. Un autre trône grande rue de Saint-Clair à Caluire et Cuire, et enfin le quatrième a franchi récemment les océans, offert par la ville de Lyon à celle de Montréal. En toute originalité, nos cousins québécois l'ont installé dans le square de Lyon. Et on finit par cette citation issue de la plaisante sagesse lyonnaise rassemblée par Catherin Bugnard. Entre les bêtes et les gens, il y a ben souvent que le baptême qui fait la différence. Insolitement Lyon, c'est une chronique, mais c'est aussi un concours photo, chers auditeurs. Envoyez-nous vos photos les plus originales, les plus inventives, les plus extravagantes, les plus insolites de Lyon via Facebook. Tous les mois, les gones se réuniront et liront leur coup de cœur. Si vous êtes ce coup de cœur, vous gagnerez une place de cinéma offerte par notre partenaire Le Comédia, selon les conditions disponibles dans le règlement du jeu disponible sur le site. Eh bien, Florence, c'est à toi, non pas de participer à jeu, puisque tu devras juger, mais de nous dire où tu vas sortir d'ici 2 semaines.
Alors, où je vais sortir ? Je vais aller le 17 octobre, donc vendredi, si je ne m'abuse,
oui.
À un concert pour la Syrie, avec une vente d'artisanat syrien et palestinien. Donc, un concert avec un groupe de jazz et un groupe de jazz manouche qui a lieu à la Clé de Voûte, voilà, qui va être fort sympathique. Et par ailleurs, mon autre chose culturelle importante que je vais faire d'ici 2 semaines, c'est également sub-méditerranéen. Ça a également rapport avec les révolutions arabes. Je vais regarder ce fameux film produit par BHL, sur BHL, avec des dialogues de BHL, qui s'appelle Le Serment de Tobrouk. Et je me demande encore comment j'ai pu ne pas le voir passer, mais qui raconte les exploits de BHL en chemise, avec du vent dans les cheveux, quand il a libéré la Libye de Kadhafi.
Donc tu penseras à prendre ton Doliprane avec toi pour cette soirée. Sinon, moi je vous conseille, chers auditeurs, à ne pas manquer 2 événements chez nos partenaires. D'abord au Ninkasi, le vendredi 17 octobre, si vous ne voulez pas aller du côté de la Syrie et si vous aimez le hip-hop, c'est The Place to Be. D'abord parce que le concert est gratuit, ensuite parce que le Ninkasi vous gâte avec le meilleur du hip-hop et des artistes jamais vus à Lyon comme Rêverie. Surprise, open demise, skilled enough to sever. There's something is sentimental to never guarantee that I'll gladly be gentle to. Nouvelle sensation de la scène de la côte Est. Elle est une des rappeuses les plus en vue sur la toile, Rêverie. Elle sera accompagnée de Loudon, Self-Provoked et du DJ Nick UDGS. Et enfin, la soirée se terminera avec les désormais célèbres Mémoire de la Groove.
Eux aussi, ils devraient faire l'animation à la fête de la quenelle. Non, tu
vois, mais dis donc, Thomas.
Ensuite, au Comédien, où le mardi 28 octobre 2014 à 20h, prenez note, se déroule la projection rencontre Steak Révolution.
Mais qu'est-ce qui se passe cette semaine?
En présence du réalisateur du documentaire Franck Ribière et du boucher Yves-Marie Le Bourdonnec. Avant-première donc, puisque le film ne sortira que le mercredi 5 novembre, un film documentaire sur cet autre visage de la filière viande.
Cet autre visage de la série.
Quand est-ce qu'on a passé dans la quatrième dimension, rappelez-moi.
Mais qu'est-ce que c'est l'histoire? Vas-y, le pitch nous. Est-ce que c'est l'histoire d'amour entre un boucher et une vache? Là, ça serait génial.
Bref, comme dirait Jean-Pierre Coff, ce film, c'est pas de la merde. Vous savez maintenant où sortir avec tous ces conseils. Mais avant une exposition, un concert, un ciné, on aime bien faire un bon resto et peut-être manger de la viande.
Arrêtez de vous moquer, il a galéré sur les transitions, quoi.
On ne se moque pas.
Les Gaunes pensent à tout. Marie-Ève est là pour vous faire saliver avec la gastronomie lyonnaise.
Noyons aujourd'hui le poisson après notre précédent développement sur la quenelle lyonnaise qui a fait des amateurs. J'espère qu'aujourd'hui vous partagerez mon engouement pour l'un de ses accompagnements, la non moins fameuse sauce Nantua.
Oui!
Avant d'être le nom d'une sauce, Nantua, pour les ignares en géographie, est le nom d'une localité du département de l'Ain, mais aussi d'un lac et même d'une écluse. Tout à fait.
Oh là là.
On a retenu le nom de cette localité pour l'associer au célèbre plat, car selon une légende, Louis XI se serait un jour arrêté à Nantua et y aurait dégusté une quenelle à la Nantua. Et c'est ensuite une célèbre cuisinière de la région, la mère Péréal, qui aura quelques siècles plus tard transformé cette appellation de quenelle à la Nantua en quenelle sauce Nantua. Maintenant que vous savez tout de son histoire, parlons un peu de la composition de cette fameuse sauce Nantua. Elle est réalisée avec une béchamel au lait frais, avec du beurre d'écrevisse et de la chair d'écrevisse, le tout relevé d'un peu de piment de Cayenne et d'une larme de cognac. Bah oui, parce que c'est un peu triste le sort de toutes ces écrevisses. L'écrevisse, vous l'aurez compris, est l'élément fondamental de cette sauce. Autrefois, l'écrevisse pullulait dans les cours d'eau et les lacs du Bugey, la contrée où se trouve la ville de Nantua. On raconte même que les écrevisses se nourrissaient des restes de viande accrochés aux pots que les tanneurs laissaient tremper. Pas très ragoûtant tout ça.
C'est dégueulasse en fait.
Oui, mais de toute façon aujourd'hui on en trouve...
Film sur le steak.
mais de toute manière aujourd'hui on ne trouve plus d'écrevisses dans les lacs du Bugey, donc pas de soucis. Donc, morale de l'histoire, il faut bien choisir ses écrevisses avant de commencer la recette. L'idéal est de prendre des écrevisses de la sous-espèce Plancus, Astacus astacus, du grec astakos, nom donné par Aristote au homard. Ces écrevisses sont aussi appelées pâte rouge ou pied rouge. Pour une sauce pour 8 personnes.
C'est noir qu'il ne faut pas mettre en sauce. Qu'on les reconnaît.
Quelle belle transition avec la suite. Pour une sauce pour 8 personnes, il vous faut donc une douzaine d'écrevisses. Elles sont cuites pendant 5 minutes dans un court bouillon et puis décortiquées. Attention, là ça devient sérieux. Les queues sont mises de côté pour la sauce et pour la décoration. On broie ensuite la carapace, ou les coffres, comme j'ai trouvé dans une recette. Oui. Puis les pinces aussi, et même les têtes dans certaines autres recettes. On les pile au mortier et on mélange le tout à du beurre dans une proportion de 50-50. Après avoir filtré le tout et l'avoir fait refroidir, on obtient le fameux beurre d'écrevisse qui sera ensuite utilisé pour la sauce. On fait fondre ensuite 40 grammes de ce beurre et on y ajoute des queues décortiquées, 40 grammes de farine et 50 centilitres de lait, puis progressivement 20 centilitres de crème fraîche, en remuant énergiquement pour éviter la formation de grumeaux. À cette béchamel, on rajoute le reste du beurre d'écrevisse, puis le piment, un peu de vin blanc, la fameuse larme de cognac et la chair d'écrevisse pour le goût. Et la sauce est prête! On recouvre ensuite les quenelles de cette sauce avant de les passer au four. Et pour fêter ce mariage de la quenelle et de sa sauce, il y a bien sûr la fameuse fête de la quenelle sauce Nantua dont j'ai déjà parlé dans ma rubrique sortie, n'est-ce pas ?
Oui.
Le samedi 11 octobre prochain à Nantua. Mais il y a aussi, pour les férus de ce plat, tout un groupe d'amis qui s'est constitué depuis 2010 en confrérie et qui vous accueillera chaleureusement autour d'une quenelle sauce Nantua, puisque c'est le nom de la confrérie, mais aussi autour d'un bon verre de vin du Bugey, ça ne se refuse pas. La délégation des commandeurs du Bugey s'associe toujours aux cérémonies de notre confrérie de la quenelle sauce Nantua. Mais justement, je sens que tout cela fait des intéressés autour de cette table, n'est-ce pas Thomas ?
Ah bon ? Oui, d'accord.
Alors pour te préparer... Pour te préparer, cher Thomas, à ce rite du grand passage samedi prochain, je te propose une première intronisation dans la confrérie à l'antenne, présidée par moi-même et soutenue par mes camarades Gone, ici présents.
Oh là là,
tu imagines tout d'abord un cortège d'une douzaine de personnes venues au son des cors de chasse. Je suis la grande maîtresse Marie-Ève et voici mes acolytes, le grand commandeur Florent, le grand écritoire Marie et le grand argentier Jérémy, avec le chevalier Clément qui est derrière moi pour
pousser la quenelle au moment opportun.
Alors, je tiens dans ma main une spatule. Et je viens, cher Thomas, de te présenter mes confrères.
Oui.
Tu es l'impétrant. C'est-à-dire la personne intronisée. Tu es l'impétrant.
Mais je vous en prie. Je vous insulte, moi, de mon bon.
Et tu te places à ma droite, c'est parfait. Je passe ton curriculum vitae qui serait trop long pour cette modeste chronique. Tu peux te choisir un parrain ou une marraine au choix.
Oui.
As-tu une préférence ?
Ben, je sais pas, je vais prendre Marie, elle m'a l'air saine d'esprit.
Très bien. À présent,
C'est-à-dire que je la connais moins aussi.
À présent, la cérémonie peut donc commencer. Amis confrères, acceptez-vous, monsieur Thomas, ici présent, au sein de notre confrérie ? Si oui, veuillez répondre haut et fort. Oui, nous l'acceptons.
Oui, nous l'acceptons.
Le maître du goût Clément, ici présent, s'avance et te fait déguster la quenelle sauce Nantua. Le grand argentier Jérémy te remet ensuite le tablier et la cravate ainsi que le béret. Le grand écritoire Marie te remet un diplôme calligraphié à ton nom. Le grand commandeur Florent t'apporte le serment de la confrérie.
C'est fait.
Et tu le lis.
Je m'engage à promouvoir la quenelle sauce Nantua dans la convivialité, la fraternité, la solidarité et l'amitié. Je m'engage à sauvegarder notre patrimoine gastronomique. Je m'engage à faire connaître Nantua et le territoire du Haut Bugey et que le diable m'emporte séant si je manque un jour à mon serment.
Et à présent, je tiens ma spatule dans la main et joue ta double. Par Saint-Pierre, patron des pêcheurs, par Saint-Laurent, patron des cuisiniers, par Saint-Jacques, patron des bouchers, par Saint-Michel, patron de Nantua, je te fais chevalier d'honneur de la confrérie de la quenelle sauce Nantua. Va manger, boire, rire, aimer et chanter la vie. Malheureusement, sans nos chères compagnes et les écrevisses, puisqu'elles servent pour la sauce.
Les gones, comme d'habitude, il était temps que ça se finisse. Et si vous en redemandez, malheureux, rendez-vous dans 2 semaines. Merci de nouveau à Jérémy de l'Envolée culturelle. Cette émission, c'est un bonheur à présenter, j'espère à écouter, mais c'est beaucoup de travail, surtout pour Clément en régie. Il convient de le remercier, surtout que c'était un petit peu son baptême du feu aujourd'hui. Merci à vous aussi, surtout, chers auditeurs. N'hésitez pas à envoyer vos bonnes réponses à la question de la semaine. Je répète, qui déclarait au Progrès vendredi 3 octobre être le candidat naturel de la droite au municipal de 2020 ? Ainsi que vos photos les plus insolites de Lyon dans le cadre de notre concours mensuel. Grâce à nos partenaires Le Comédia et Le Ninkasi, il y a de beaux cadeaux à gagner. En tous les cas, je vous donne rendez-vous le mercredi 22 octobre pour le numéro 3 des Gones. Et la bande sera au grand complet puisque Tatiana sera de retour. D'ici là, surtout, n'oubliez pas, dans Lyon, faites des gonneries.